Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui à une icône de la chanson française, la plus discrète et la plus populaire des chanteuses, Mylène Farmer.
J'ai besoin de la musique, j'ai besoin des mots. Je pense que j'en suis même convaincue, je suis quelqu'un d'instinct, d'instinctif. Donc je sais que le jour où je ne souhaiterai plus dire ces mots, chanter, je choisirai ce moment avant qu'il ne me choisisse et ne me saisisse.
Vous connaissez la date, l'échéance ?
Non, bien sûr que non.
Il y a quelques années, en marge d'un des concerts de son Tour 2009, qui lui avait permis de chanter pour la première fois au Stade de France, Mylène Farmer m'avait accordé un long entretien, en tête-à-tête pour RTL. La chanteuse s'était livrée comme rarement sur sa personnalité, sa nature profonde, ses angoisses et sa relation avec le public. Une relation de bientôt 40 ans. En cette année 2023, Mylène Farmer est de retour sur scène jusqu'au 29 juillet. 13 concerts dans 9 villes, une tournée des stades préparée dans le plus grand secret et baptisé Nevermore, jamais plus. Une fois de plus, la star cultive le mystère et joue avec les nerfs de ses fans. Il nous a donc semblé intéressant de vous proposer ce document sorti des archives de RTL. J'ai le souvenir d'avoir rencontré une femme au charme fou, rieuse, drôle, bavarde, très organisée dans sa démarche artistique. Comment Mylène Farmer conçoit-elle la scène? Comment écrit-elle ses paroles? Où puise-t-elle son inspiration? Ses démons, le secret de sa longévité, Mylène Farmer dit tout.
Bonjour Mylène Farmer.
Bonjour.
Merci de m'accorder cet entretien. Vous ne vous ménagez pas sur scène. Vous concevez la scène comme un défi physique aussi.
En tout cas, je m'y prépare. J'ai à peu près 6 mois d'entraînement avant que de me produire en scène avec un coach. Donc oui, l'appréhension physique, si je puis dire, en tout cas l'exercice physique fait partie du spectacle. Mais quand on est porté par un public, celui que j'ai devant moi, c'est quelque chose qui est tellement porteur qu'on en oublie l'effort. C'est plus l'émotion qui gagne le terrain.
Vous adorez entendre chanter le public. Souvent, à la fin d'un morceau, d'un tableau, d'une chanson, vous reprenez a cappella pour les entendre. Ça, c'est le plus beau cadeau finalement pour un artiste.
C'est le moment probablement le plus magique, en tout cas un des moments les plus magiques, c'est vrai, puisqu'il s'approprie et la chanson, c'est presque de l'ordre du divin, ce sont des mots un petit peu graves toujours, mais c'est quelque chose, je reprends le mot magique, c'est exceptionnel, oui, de vivre quelque chose comme ça, bien évidemment.
Quand on vous voit sur scène, on se dit que vous ne pouvez pas préférer l'ombre à la lumière. Vous avez l'air si forte, si vivante dans la lumière.
Et là, je vais vous répondre que le choix de l'ombre et la lumière est le choix entre la vie privée et la vie publique, qu'on peut rester vivant aussi dans l'ombre. J'ai ce paradoxe en moi. Je suis capable de vivre aussi bien dans l'ombre et de m'exprimer dans la lumière.
Mais on a l'impression que votre timidité est transcendée quand vous vous trouvez devant 30 000 personnes. Vous l'expliquez comment ça ?
Alors ça, je crois que je n'ai pas d'explication. J'ignore moi-même, si ce n'est que je sais mon handicap devant 3 personnes. Je ne sais pas si je peux qualifier ça d'aisance devant 30 000 personnes, mais en tout cas, il y a une bascule qui se fait presque naturellement. J'ai plus de difficultés, oui, avec 2-3 personnes que devant une immense audience. Et là, pour le coup, il n'y a rien de préparé. Quand j'ai envie de dire quelque chose, c'est que j'en ressens le besoin. Là, c'est place au naturel, c'est place à l'émotion en direct, pour le coup.
Justement, quand vous écrivez vos textes, est-ce que vous pensez déjà à l'aspect visuel d'un tableau, dans un futur, sur scène ?
Non, sincèrement, là, je suis dans une pièce isolée et les mots, j'allais dire, s'appuient, s'accrochent, s'harmonisent avec la musique. Donc, j'ai besoin de la musique avant d'écrire des mots. Parfois, la musique m'inspire des sentiments, des sensations. Parfois, j'ai une envie de texte et puis la musique s'accorde avec ce texte. Mais en aucun cas, l'image n'apparaît dans ma mémoire à ce moment-là, non.
Vous me disiez, vous êtes dans une pièce quand vous écrivez vos paroles. Donc, vous êtes seul, comme un écolier à son bureau avec une page blanche, le stylo, vous mettez un fond sonore, donc là vous vous inspirez de la musique, ça se passe vraiment comme ça ?
Ah, tout à fait, dans une pièce en tout cas totalement isolée, ça j'en ai besoin. Comme un écolier-écolière, j'ai un très mauvais souvenir de scolarité. En tout cas, besoin bien évidemment d'isolement et puis la musique. La musique sur laquelle je mettrai des mots.
Sur scène, vous incarnez vraiment, et c'est ce qui est fascinant, l'intimité et la grâce dans une mise en scène gigantesque. Quel est le secret pour marier tout ça, pour y arriver?
J'ai toujours aimé, moi, en tout cas peut-être avoir besoin du gigantesque et du spectaculaire. Maintenant, j'ai besoin de moments d'intimité. Et c'est là qu'il y a un vrai, vrai partage qui, pour moi, est de l'ordre de la... c'est-à-dire de la communion presque, encore un mot fort, mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai moment d'intimité. Malgré le grand nombre, ce grand nombre devient quelque chose d'assez exceptionnel pour moi.
Il y a un autre couple, on a parlé gigantisme et intimité, il y a aussi le couple qui frappe quand on vous voit sur scène, c'est discrétion et provocation. Comment faites-vous pour que discrétion et provocation fassent bon ménage?
Je vais vous faire une réponse assez banale. Toutes ces facettes font partie de moi. Je suis de nature discrète en général, de nature timide parfois, mais l'éclat de rire fait partie de moi aussi. Et puis à la fois, je crois que j'ai cette... là, pour le coup, je n'y suis pour rien, c'est un cadeau de la vie. J'ai à la fois sans doute cette fragilité, mais aussi cette force. En tout cas, je vais l'exprimer de cette façon. C'est une force qui me permet de surmonter toutes mes peurs, tous mes démons, au moment où j'en ai le plus besoin.
Pour durer, le secret, c'est le travail.
J'ai toujours peur de donner des leçons, mais en tout cas, le travail, l'opiniâtreté est essentiel, oui.
Parfois dans la souffrance?
Je crois que c'est là indissociable, hein. En tout cas, bon, je ne vais parler que de moi. J'allais dire, tout travail est certes un plaisir, c'est un acharnement, mais la douleur en fait partie. La douleur parce que les doutes, peut-être la douleur physique, faut aller au-delà de soi, oui.
Je me posais la question, parce que votre univers, on le connaît, il est très défini, très cohérent depuis le début. Où est-ce que vous allez chercher votre nourriture artistique?
Un peu partout. Je peux vous parler d'une exposition. Ce peut être une source d'inspiration maintenant, bien sûr, la peinture, la littérature, tout ce qui peut passionner et faire partie de notre vie. Des auteurs, Stephen Zweig, mais là encore, je vous épargnerai la liste parce que...
C'est assez intéressant finalement de savoir, peut-être les voyages vous inspirent. Est-ce que les rencontres humaines vous inspirent?
Je crois que l'être humain m'inspire tout simplement. Maintenant, vous dire, est-ce que cette personne aura déclenché telle idée? Là, ponctuellement, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais les rencontres sont... les belles rencontres sont très très rares, mais elles sont indispensables à sa vie.
Mylène Farmer, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir construit une œuvre?
Non, je peux pas vous dire non. Stefan Zweig va construire une œuvre. J'ai construit quelque chose. Je suis fière de ce que j'ai pu construire, sans prétention aucune. Je suis heureuse d'avoir rencontré un public. Je suis heureuse de cette fidélité. Voilà.
Est-ce que le fait de durer aussi répond à une obsession de laisser une trace?
Écoutez, très sincèrement, l'obsession de laisser une trace ne fait pas partie de moi. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'aimerais que l'on ne m'oublie pas.
Vous avez peu de souvenirs de votre enfance. Est-ce que vous avez imprimé ces dernières années de chansons, de musique, de tournées, de rencontres avec le public?
J'ai imprimé des moments uniques. J'ai une mémoire qui est très très sélective aussi, je crois qu'il est nécessaire, sinon on est envahi par trop de choses et des choses qu'on voudrait ou qu'on a oubliées, c'est nécessaire, je crois, pour sa santé mentale. Mais des choses qui sont inscrites très très fortement, bien évidemment, tout au long de ces années, forcément.
Ce sont des images de scène?
Aussi et surtout, mais il y en a d'autres aussi, plus douloureuses, mais... qui ont nourri ma vie.
Et puis la présence chaleureuse du public, qui se manifeste pendant les concerts, et peut-être aussi entre les concerts, quand vous croisez les fans.
Ça, vous savez, c'est une fois de plus, là encore, c'est moi qui réponds, mais j'imagine que tous les artistes, répondent la même chose. Si ce n'est que je leur dois tout. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai une chance inouï, je le sais, c'est eux qui m'ont soutenu, qui m'ont, j'allais dire, aidé, probablement permis de vivre. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est là encore un cadeau de la vie qui est que je ne soupçonnais pas possible pour moi. Et même si on évoquait le travail, laissons le magique opérer. Et ce public pour moi est magique et dans son intensité et dans sa fidélité, bien évidemment, j'ai une chance inouïe.
Est-ce que finalement ce métier a été votre survie?
Oui, là définitivement, oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a aidé à m'incarner. Là où j'avais le sentiment, plus jeune, de n'être pas incarné du tout, de n'être attaché à rien, de n'être relié à rien. Oui, c'est fondamental.
C'est très fort de dire oui, finalement, à cette question.
Parce que là encore, je crois que c'est l'honnêteté, même si elle est, même si ça peut paraître enfantin ou démagogue, ou enfin peu importe. Là, vous êtes témoin, c'est spontané, c'est vrai.
Est-ce que vous avez apprivoisé vos peurs et vos souffrances avec le temps, avec le succès ?
Non. Et c'est sans doute pas grave, ou très grave, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais j'ai certainement pensé des plaies. Il y a toujours ce mot qui revient dans le vocabulaire de chacun d'entre nous, c'est faire le deuil de quelque chose. Malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse faire le deuil de quelque chose. Maintenant, on peut tenter de faire réémerger la vie et des choses qui vous aident à tenir, qui vous aident à vous réveiller, qui vous aident à sourire. Maintenant, tout ce qui est douleur, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur sont là, ancrés. Et là encore, ça fait partie de votre sang, de vos veines. C'est là, c'est présent, mais c'est sans doute nécessaire. Peut-être pas, mais c'est là en tout cas.
Nécessaire à la création.
On va dire que c'est forcément ça aide en tout cas à une certaine créativité, oui.
Est-ce que l'idée de mourir vous terrifie-t-elle encore ?
L'idée de mort, de ma propre mort, en tout cas l'idée de la mort me terrifie, fait partie de chaque 2 secondes de ma vie. Est-ce que ma propre mort me terrifie ? Je vais vous dire parfois oui, parfois non. Parfois le mot fatalité est plutôt serein, je me dis bon. Ça se fera, de toute façon c'est inéluctable. Parfois elle me hante et parfois je l'oublie. Là encore c'est tout et son contraire, donc je ne vous aide pas beaucoup dans ma réponse.
Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, Mylène Farmer ?
L'absurde probablement.
Comment est-ce que vous définissez le mot mystère ?
Le mot mystère, mon Dieu. Déjà pour commencer, il n'y a pas de stratégie du mystère me concernant. J'espère qu'on l'a compris. Maintenant, vous dire quelque chose sur le mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui peut être d'un ordre religieux, mais là je vais vous donner une définition de dictionnaire.
Qu'est-ce qui vous ferait arrêter la musique ?
L'absence de désir. Vous allez avoir un énorme silence pour une radio ici.
C'est parfois intéressant.
Quand on n'a plus envie de donner ni envie de recevoir, d'abord j'imagine qu'on est un être mort, donc je ne me le souhaite pas. Mais je crois que tout art a ses limites, je sais pas, je vais peut-être dire une énorme absurdité, je sais pas, je reviens encore à l'idée d'instinct, je crois que ce sera spontané, quelque chose en moi me dira, là il faut arrêter.
Ça révèle une vraie force de caractère.
Peut-être ça fait partie aussi de moi, cette force de, oui, de caractère sans doute, en tout cas ne pas tricher avec soi-même. Voilà, ne pas se mentir et essayer de dormir un petit peu de temps en temps.
Vous dormez tranquille, enfin, aujourd'hui ou...
Non. Non, ce n'est pas possible.
Voilà pour ce document RTL qui nous permet de cerner un peu mieux cette star si discrète et si fascinante qu'est Mylène Farmer. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.